journal des auditeurs avec Stéphanie Hitman sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le JDA, nous parlerons de la sécurité au Sahel, une fois n'est pas coutume, en marge du forum sur la paix, le réseau 2R3S, réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, et l'IPSE ont organisé à l'Agence française de développement une conférence sur la prévention et anticipation des situations de fragilité au Sahel, enjeu de l'alerte précoce et d'une approche inclusive de la gouvernance. Un long titre pour évoquer les moyens autres que militaires pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité dans le Sahel. Alors, quelles sont ces autres approches? Faut-il, par exemple, négocier avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans? Quelles sont les autres approches aussi à privilégier, notamment en termes de développement? Nous en parlerons avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Pour intervenir, vous exprimer sur ce sujet, posez vos questions à notre invité, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00, 01 55 07 58 00. Avant cela, sans plus tarder, on se tourne vers le répondeur pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Je m'appelle Marie-Hélène Mbalanda Kibabu. Je déplore le monsieur que j'ai entendu tout à l'heure à la radio, dans les auditeurs, en disant qu'on laisse Tshisekedi, Félix Tshisekedi, prendre la tête de l'opposition pour aller aux élections avec le FCC. Je suis désolée. Je ne sais pas si vous êtes tribaliste ou vous êtes Moulouba, je ne sais pas. Mais je ne vois pas quelle base il a de plus que Fayulu et de plus que Bemba et de plus que les autres qui sont associés avec Fayulu. Je suis désolée parce que la base de M. Tshisekedi comprend que les Balouba. Alors, je suis désolée d'entendre ça d'un Congolais qui ne comprend pas que quand on fait des concessions, qu'on demande à faire un pacte, que, comme je peux l'appeler, on ne peut pas refuser ça. Ils ont signé quelque chose à Genève. Je croyais qu'ils ont évolué, mais là, je déplore. Je déplore ces sentiments-là. Je pleure pour la RDC. Je suis désolée, la RDC, il faut que vous vous réveillez. Parce que là, vous êtes toujours en arrière. Je suis désolée.
Bonjour, peuple congolais. Bonjour, amis du JDA. Je me permets d'intervenir encore ce matin pour s'adresser particulièrement à mes frères de l'UDPS. Regardez la grosse erreur que M. Félix a faite. Donc, il a renié quelque chose qu'il avait signé avant. Il avait pris des engagements. Noir et blanc, c'est marqué que s'il renie à sa signature ou s'il renonce à ça, que ce soit lui ou Caméré ou un de tous ceux qui étaient à la réunion à Genève, qu'il mette fin à leur carrière politique. C'est pour dire que l'erreur n'est pas venue des adhérents de l'UDPS, mais des messieurs Tshisekedi Félix. Lui, il ne regarde pas l'intérêt du parti, il regarde l'intérêt de son ventre. Vive les Congos, vive la démocratie.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1, particulièrement aux Congolais de la République démocratique du Congo. Moi-même, en tant que ressortissant de la République démocratique du Congo, et j'appelle à tous les Congolais vraiment pour le penser de notre pays. Quand j'ai vu que le président Kabila, il a resté très longtemps et aujourd'hui, nous pensons pour tout ce qu'il a fait, de bien et de mauvais, mais c'est le moment qu'il puisse partir, et que l'opposition il pouvait se réunir pour un seul candidat, mais quand je vois ce que Tshisekedi fait encore pour essayer de partir tout seul, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une très bonne solution. Parce que regardez toutes ces voix que lui va prendre pour lui tout seul, alors que si toutes ces voix-là sont données pour un seul candidat, ça devrait être une bonne chose. Vive la République démocratique du Congo et vive le Congolais. À très bientôt. Merci. Bye bye à tout le monde. Ciao.
Bonjour Madame Atman, je m'appelle Ricky, je voulais laisser un message, surtout aux opposants congolais, de tout ce qu'ils viennent d'effectuer pour sortir un candidat commun. Donc, félicitations pour eux. Et ce que je demande du moins au peuple congolais, qu'il fasse le nécessaire de voter Martin Fayulu comme représentant à ce poste du président de la République. C'est un vrai Congolais, donc que le peuple congolais cette fois-ci ne se trompe pas. Nous qui sommes en Europe, nous n'avons pas le droit de voter, mais on compte sur eux qui sont là-bas au pays, que le monde soit avec nous cette fois-ci. Merci, au revoir.
Bonjour les amis, c'est Touré. La sécurité dans le Sahel passe par la lutte contre la corruption et la malgouvernance. La corruption, pourquoi j'ai dit? Il y a certains endroits dans le Sahel ou dans beaucoup de pays africains que la population préfère les djihadistes que les autorités locales à cause des raquettes, de corruption, des emmerdements. Donc, la lutte contre le terrorisme passe par la lutte contre la corruption, la raquette, la mauvaise gouvernance, les élections truquées, ces choses-là que, malheureusement, on voit ce qui vient aider ces pays-là à lutter contre le terrorisme, mais on ne les aide jamais. On ne met jamais pression pour lutter contre la corruption et la malgouvernance qui sont la cause principale de ces problèmes. Merci JDA. Merci Africa numéro 1. Bonne journée.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, la paix dans le Sahel, comment sortir du tout sécuritaire? Nous en parlons tout de suite avec Emmanuel Dupuy. Emmanuel Dupuy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, hein, Emmanuel. Je rappelle, les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes le président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et vous avez co-organisé, en marge du Forum de Paris sur la paix, cet événement, hein, je le disais en introduction, sur la prévention et anticipation des situations de fragilité au Sahel, enjeu de l'alerte précoce et d'une approche inclusive de la gouvernance, vaste programme. Concrètement, Emmanuel Dupuy, est-ce qu'il s'agissait aussi, dans cette conférence, de prendre conscience, de prendre acte même pour les partenaires, et de reconnaître que finalement le tout militaire a échoué au Sahel?
Oui, c'était évidemment partiellement et dans sa globalité les deux objectifs que nous étions donnés. Partiellement parce que vous avez raison de rappeler que il se passait dans marge du Forum de Paris, dont le but était de montrer qu'il pouvait exister des voies alternatives au tout conflictuel et que le multilatéralisme pouvait et devait être sauvé par la coopération entre les différents acteurs de la scène internationale, non seulement les États, mais les organisations subrégionales, la mobilisation des entreprises et évidemment la société civile et les ONG. Et il s'agissait aussi de montrer que aucune solution conflictuelle, et particulièrement dans la bande sahélo-sahélienne, et plus précisément au Mali, ne pouvait être réglée par la seule voie militaire. Du reste, c'est un constat que nous faisons, nous, Européens, et que nos amis africains font depuis de nombreuses décennies, à savoir que l'action militaire ne peut être qu'une première réponse, une réponse d'urgence pour faire face à une crise, pour contrer les organisations qui mettent à mal la sécurité, fussent-elles organisations de rebelles ou organisations terroristes ou organisations criminelles, mais que bien évidemment, à un moment ou à un autre, il fallait accompagner. Et le mot accompagner est particulièrement important, dédoubler, si j'ose dire, une approche militaire d'une approche globale, en y ajoutant des actions civilo-militaires, bref, en faisant le lien entre sécurité et développement. La première condition du développement, c'est la sécurité, mais c'est évidemment pas la seule, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, avec mes partenaires du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, faire cet atelier en marge du sommet et pas dans le sommet, pour bien montrer que la société civile avait des approches peut-être radicalement différentes que les approches qui, pour l'instant, montrent leurs limites dans le Sahel, avec ce chiffre terrible qui a été rappelé par la Fédération internationale des droits de l'homme, L'année 2017 a été une année particulièrement terrible, en ne prenant que l'exemple du Mali, où plus de 350 personnes sont mortes à travers la le maintien et la pérennité de la sécurité, puisque 400 attaques ont eu lieu sur les rien que sur le territoire malien l'année dernière, alors même que s'y déploie une opération des Nations Unies, plus de 12 000 hommes, que s'y déploie une bonne partie de l'opération Barkhane sur les 4 000 hommes que la France a décidé de déployer sur les 5 pays de la Mauritanie au Tchad, en englobant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Bref, que la situation ne s'est pas empirée, mais qu'elle ne s'est pas améliorée. Là aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire.
C'est très clair. Alors, justement, vous avez parlé de cette approche du développement en disant, voilà, il y a ce duo, hein, sécurité et développement. Il n'y a pas de sécurité sans développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Le G5 Sahel, Emmanuel Dupuy, devait porter aussi cette approche développementaliste, je ne sais pas si ça se dit, de la paix et de la sécurité. Mais il semblerait aussi que ce G5 Sahel soit pas loin d'être une coquille vide. Je m'explique, entre le général mauritanien qui déplore, c'était hier, le manque d'équipement, et le président nigérien Mamadou Issoufou qui déplore quant à lui le manque du financement. Est-ce que dans ce contexte sahélien, le G5 Sahel patine? Est-ce qu'il est au point mort? Ça devait être une solution africaine à ce défi africain.
Alors, entre les deux, là aussi, la symbolique ou la parabole du verre à moitié vide et du verre à moitié plein me semble malheureusement être particulièrement prégnante. Alors, premièrement, la question du G5 n'est pas seulement qu'une question militaire. Le G5 a été créé à l'initiative du président mauritanien Aziz en février 2014 dans un but politique. Le premier de ses objectifs...
Poussé par la France, on peut le reconnaître, Emmanuel. La France a beaucoup poussé à la création de ce G5.
On peut le dire ainsi, mais néanmoins, la réalité historique veut que ce soit le président mauritanien qui ait décidé de lancer cette initiative, doublement légitime, puisqu'il était, en l'occurrence, président également d'un exercice de l'Union africaine. Donc, cet exercice visait d'abord à solidariser et à créer de la coopération là où il y avait insuffisamment de coopération transfrontalière. L'exemple de la Mauritanie et du Mali est un de ces exemples. On pourrait y ajouter la difficile coopération frontalière entre le Mali et l'Algérie, mais comme chacun sait, l'Algérie ne fait pas partie du G5. Donc la première dimension du G5 est avant tout politique, diplomatique. Et ensuite, s'y est accolée, bien plus tard, en l'occurrence 3 ans plus tard, une nécessité d'ancrer durablement une capacité militaire pour avoir une concrétisation de cette action militaire endogène, comme vous l'avez rappelé, faisant que, à travers la mobilisation de peu ou prou 750 à 1000 hommes au niveau d'une brigade par pays, on ait une capacité de 5000 hommes à travers cette force conjointe dont les pays en question sont particulièrement impliqués, pour lesquels les pays en question sont particulièrement impliqués sur le papier, près de 50 millions d'euros. Mais comme vous l'avez rappelé, le montant initial qui était appelé pour ce qu'on appelle la génération de force, la mobilisation, donc l'équipement, la mise en place des organismes, du fonctionnement, l'entraînement et bien évidemment la capacité d'action, c'est près de 450 millions d'euros et vous avez raison de dire que seulement une partie de l'argent a été décaissée. Mais à côté du G5, Sahel, il y a une autre approche qui est beaucoup plus récente et là-dessus on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain si j'ose dire, puisque ce n'est qu'en juillet 2017 qu'a été lancée une autre initiative, celle d'une alliance pour le Sahel, décrit comme une coalition pour le Sahel, où l'action militaire est mineure, et par contre l'action en termes d'investissement, en termes d'implication financière est beaucoup plus conséquente. Là aussi, il est un petit peu tôt pour dire où en sont réellement la concrétisation, mais l'ensemble des parties prenantes, l'Union européenne, l'Union africaine, le PNUD, la Banque africaine de développement, et la Banque mondiale, à l'initiative de la France et de l'Allemagne, ont mis sur la table des sommes beaucoup plus conséquentes que ce qui est appelé pour ce qui a été mobilisé difficilement, je le répète, et vous avez raison, Stéphanie, de le rappeler, pour la force conjointe, mais ce sont près de 9 milliards d'euros à travers 600 projets de développement. On pourrait détailler un certain nombre de ces projets, mais ce qui est essentiel, c'est qu'il y a une coordination, une sorte de voie unique ou de vision partagée entre la France et l'Allemagne pour une implication plus forte de l'Allemagne qu'elle n'était jusqu'à présent, et une mobilisation de l'Union européenne, puisque maintenant, dans l'Alliance Sahel, il y a non seulement les 5 pays du G5 Sahel, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France évidemment, et qui ont été rejoints encore ces derniers jours, la Grande-Bretagne, et qui ont été rejoints ces derniers jours par le Finlande et le Luxembourg. Donc bref, une mobilisation comme la France d'ailleurs l'appelait de ses voeux dès le début de son implication militaire au Mali en décembre 2013, une mobilisation beaucoup plus européenne, beaucoup plus collective.
On entend bien. Merci Emmanuel pour ce point très concret et très clair, hein, notamment sur la question du G5 Sahel et comment l'approche du développement est venue s'ajouter en février dernier, donc vous l'avez dit, avec la création de l'Alliance Sahel. Vous parliez de l'Allemagne. On rappelle également que la ministre allemande de la Défense est actuellement du côté du Mali. En tout cas, elle y était hier, hein, avec son homologue française Françoise Parly. Ils étaient notamment du côté de Gao. On va aller écouter Thierno qui nous écoute à Conakry. Je rappelle le numéro si vous souhaitez intervenir, chers auditeurs, 01 55 07 58 00, 01 55 07 58 00. On va notamment parler dans quelques instants du dialogue envisagé peut-être avec les terroristes. C'est ce que font en tout cas les Nigériens du côté de Difa. Est-ce qu'il faut importer cette méthode au Mali? Je vous poserai la question dans quelques instants. Emmanuel, avant cela, direction Conakry, retrouvez Thierno. Thierno, bonjour.
Oui, bonjour, madame Stéphanie, et bonjour à l'ensemble des auditeurs et des auditrices de JDA.
Bonjour, Thierno. Que pensez-vous de cette approche qui vise à faire du développement le préalable à la sécurité? En tout cas, de lier les deux.
Bon, à mon avis, il faut que...
Ça a coupé. Bon, c'est pas grave. On a Diomo de Beng du côté du Standard qui patiente depuis un bout de temps. Est-ce qu'il est là, Diomo de Beng?
Oui, bonjour Stéphanie.
Ah, bonjour Diomo. Malheureusement, la ligne n'est pas très bonne. Hein.
Oui.
Non. Ah non.
C'est bien, là,
non.
C'est bien.
Allô?
Allô? Oui.
Allô? Allez-y.
Oui, allô?
C'est bon.
Voilà, moi je dirais que franchement, Stéphanie, je vais résumer cette crise-là en deux phases. Hein. Je vais aller sur la phase financière et ensuite j'aborderai le côté volonté personnelle et volonté politique. Financier, parce que vous savez qu'il y a eu une grande réunion sur le G5 Sahel. Il s'agissait d'avoir de l'argent. La France devrait y participer à plus de 50%. Et les autres pays africains. Vous m'entendez, Stéphanie?
Oui, cela dit, le chiffre... vous n'aventurez pas donner des chiffres, Diomo, je ne suis pas sûr que la France participe, mais on demandera tout à l'heure à Diomo, à Emmanuel Dupuis.
Oui, la France doit participer beaucoup.
C'était le chiffre qui était, que je remettais en question.
30 à 40%, je me rappelle encore.
D'accord,
30 à 40%,
déjà, c'est pas les 50 que vous venez de dire.
Les 5 pays concernés par la crise. Et vous savez aussi, je vais illustrer ça tout doucement en vous disant, Stéphanie, quand l'ennemi vous attaque, vous vous défendez d'abord avant d'appeler un défenseur FN. C'est le cas aujourd'hui de ce qui se passe. Nous restons les bras croisés, tels ces pays-là, parce que nous attendons toujours de l'aide venue de l'Europe, de la France, des financements. Mais nous avons eu l'idée, tout à l'heure vous avez dit, et votre invité l'a contesté, bon il n'a pas contesté, mais il a contourné, en disant que c'est la France qui a émis. Mais il a dit non, c'est le président mauritanien. Le président mauritanien l'a initié en pensant à qui? Parce que lui seul, il peut pas faire le financement. Mais il peut faire des financements dans son pays pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Et personne n'en parlera. Parce que là, on n'attend pas la France pour se maintenir au pouvoir, mais on attend la France pour venir chasser des rebelles d'une occupation.
C'est pas inintéressant ce que vous dites, Diomo de Beng. Vous dites finalement, ces chefs d'État qui tendent la main. Parce qu'on a encore entendu Issoufou, hein, qui se plaignait de l'absence de financement, voilà, que l'argent, la solidarité internationale ne venait pas assez vite. Vous dites, ces mêmes présidents arrivent à trouver des moyens quand ils sont en période électorale pour se faire réélire. Ils pourraient utiliser ces mêmes moyens pour lutter contre l'insécurité dans leur pays.
Oui, c'est ce que je suis en train de dire, effectivement. Vous avez vu tout à l'heure, le terrorisme est devenu un programme politique de nos chefs d'État africains. Vous savez, à chaque fois, quand ils veulent se faire réélire, ils parlent de « non, moi, personnellement, je vais éradiquer cette rébellion ou ceci ou cela ». Mais après, quand ils sont au pouvoir, ils n'ont plus de programme. Le programme, c'est de chercher maintenant à se stabiliser, à préparer la prochaine mandature. Et moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas de volonté politique, la France ne fera pas l'effort. Vous savez, comme on le dit, hein, je vais illustrer ça par le petit album d'Alpha Blondy qui vient d'être créé là. Les gens chercheront toujours à nous diviser car notre division arrange beaucoup ceux qui financent.
C'est très clair.
Notre division arrange beaucoup ceux qui financent. Bien sûr. Tant qu'on ne cherchera pas ça, on ne va pas lutter contre le terrorisme et après, on va s'arrêter quand il y aura des morts, des morts, des morts, des morts. Non seulement on ne va même pas les déplorer parce que je n'ai vu aucun président ou des réunions à part le G5 Sahel même qui est venu se passer d'ailleurs sur un territoire français, bien sûr, alors que ça se tienne là-bas. Et donc du coup, la population qui souffre n'entend que par, ne voit que par les médias, soit visuels ou auditifs, ou dire que nous avons fait une réunion. Mais en ce moment, les vraies solutions pour combattre le terrorisme, c'est en Afrique. C'est en Afrique.
C'est très clair. Je pense qu'on a bien compris, Diomo Debeng, votre réflexion, et vous avez mis l'accent, hein, je crois, hein, sur notamment la volonté politique, hein, qui sait effectivement le faire. De Lens, et Amandjou qui nous dit c'est du pipeau, arrêtez l'inégalité entre les peuples. Et monsieur Diarra, on va peut-être avoir le temps d'écouter. Monsieur Diarra, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur Diarra, vous dites la sécurité dans le Sahel passe d'abord par l'abandon total des idées de création de nouveaux états dans cette zone. Suivez mon regard, l'Azawad n'existe pas, c'est ce que vous voulez dire.
Oui madame, si on parle de la sécurité dans le Sahel... C'est la sécurité dans le Sahel, madame, passe d'abord par abandon total des idées acabéliques de création d'un nouveau État dans cette zone.
Vous dites ça, ouais, Menela, c'est ça.
Oui, bien sûr que Menela et tous d'autres, madame, qui dit création d'un nouveau État dans cette zone dit réarmement de tout genre. Donc, madame, une future poudrière dans cette France, dans notre zone, dans cette zone sahélienne.
Mais monsieur Diarra, on n'en est pas encore là, rassurez-moi.
Oui, madame, les idées, oui, on n'est pas encore là, mais madame, c'était en cours. Donc, nous disons tout simplement, nous ne voulons pas d'une poudrière dans cette zone. Sinon, quand cela va se déclencher, personne, madame, ne sera à l'abri, même ceux qui se croient beaucoup plus protégés.
Et qu'est-ce que vous pensez, monsieur Diarra, des questions du développement préalable aux questions de sécurité? On a vu ce qui se passe dans le centre du Mali et dans d'autres régions d'ailleurs du Sahel, comme au Burkina Faso, où voilà, des conflits s'étendent. Alors certains parlent de terrorisme, certains parlent de conflits communautaires, mais ce qui est commun à ces régions, c'est l'absence de l'État. L'État qui est vu aussi hein, comme prédateur pour ces gens-là, puisqu'il vient voilà, prendre l'impôt. Quel projet peut mettre en place ces États-là, pour justement désamorcer l'insécurité?
Oui, madame, tout passe d'abord, oui, le développement, bien sûr, que nous avons besoin de développement dans cette zone, car nous nous connaissons tous dans cette zone, madame, soit au Burkina ou au Mali, et nous savons tous qui est qui dans cette zone. Nous savons depuis longtemps, nous avons dit clairement, c'est pas la sécurité, c'est pas seulement par les armes que nous pouvons résoudre cette problème. Nous devrons d'abord y mettre en place une véritable projet de développement réel dans cette zone pour que nous nous
et voulons... inclusif.
Bien sûr que ça sera en tant que nous nous continuons à soutenir en une partie de certaines personnes et contre les autres, ils se croient toujours beaucoup plus protégés, donc ces personnes n'arrêtent jamais à faire, vous voyez,
ce qu'on appelle les complicités locales, monsieur Diarra. Merci beaucoup hein, de votre participation. Il nous reste quelques minutes. Emmanuel Dupuis, je reviens vers vous. Alors, je vais vous demander peut-être une réponse sur le financement qu'apporte la France au G5 Sahel. Et puis, je vais vous parler de Dandano Mamadou Lawali, ancien gouverneur de DIFA. Voilà ce que dit monsieur Lawali et Emmanuel. Ils disent, nous avons mis en place le processus d'accueil des repentis de Boko Haram. On a parlé avec ces jeunes, nous avons compris quelles étaient leurs motivations et nous avons fait en sorte que plus de 200 jeunes soient revenus au pays et déposé les armes. Il faut des conditions du retour à la paix et ces conditions passent nécessairement par le dialogue. Il faut parler, monsieur Lawali a pris ses dispositions après avoir constaté que malgré les opérations antiterroristes de l'armée, la menace était toujours réelle. Est-ce que vous êtes favorable à une négociation, à une discussion avec les anciens combattants par exemple, au Mali, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Amadou Koufa, entre autres.
Alors, moi, je pense effectivement que pour sortir d'un conflit, évidemment qu'il faut discuter avec les belligérants. C'est du reste ce qui avait été fait dans une première phase, de manière insuffisamment inclusive à travers les accords d'Alger, qui ont été signés avec une partie partie du problème avec la rébellion que qu'un de vos auditeurs n'appelait pas à, à se transformer en État, et je peux le suivre de ce point de vue-là. Donc ça, évidemment, cette méthodologie de la médiation ou de la facilitation est indispensable pour sortir d'une crise. Ce qui se fait à DIFA, d'ailleurs, s'apparente beaucoup à ce qui se pense actuellement dans un autre théâtre, la Centrafrique, où évidemment, on part du principe que les groupes armés doivent s'asseoir autour d'une table et passer de groupes armés à des revendications politiques. Et j'en reviens à une interrogation que vous avez faite, Stéphanie, par rapport à une interpellation d'un de vos auditeurs. Oui, sans doute faut-il penser le problème autrement. La question du terrorisme nous a frappés de manière inattendue, et nous avons réagi. C'est l'opération Serval à partir de janvier 2013. Mais encore une fois, les causes qui ont permis l'irruption de ces groupes armés terroristes doivent être analysées. Un récent rapport d'une ONG britannique évoquait le fait, à travers des interviews qui ont été faites dans l'ensemble des pays de la bande sahélo-sahélienne, et plus précisément les 5 du G5 Sahel, que la chose qui ressortait le plus en termes d'attente de la jeunesse, ce ne sont pas forcément des choses qui sont contradictoires. Au contraire, c'est une attente d'État, plus d'État. Vous l'avez rappelé, une bonne partie de cette jeunesse se sent exclue, se sent désœuvrée, se sent marginalisée, et d'une certaine façon, ce sentiment d'injustice, qui parfois peut s'accompagner d'une forme d'exaction ou d'une forme de trop forte pression de la part du gouvernement pour justement éradiquer ou mettre au pas cette jeunesse. C'est d'ailleurs ce qui, en 2009, avait provoqué la création de Boko Haram. Boko Haram, à la base, est né d'un mouvement de revendication d'une trop forte distance ou d'un hiatus entre le centre du pays et la périphérie, qui s'estimait lésée dans son inclusion dans le cadre du développement du Nigeria, qui, faut-il le rappeler, est un pays particulièrement riche, avec un PIB de quasiment 600 milliards de dollars. Et donc ça, c'est la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut trouver les raisons pour lesquelles une partie de cette jeunesse se désaxe et devient soit narcotrafiquant, soit passeur de migrants, soit ne bascule dans le terrorisme. Donc bien évidemment, tous ces jeunes peuvent être réintégrés, et c'est ce qui a fait l'efficacité du processus de ce qu'on appelle le DDR, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des miliciens ou des rebelles ou des
combattants.
Terroristes. Alors, des combattants. Il y a différentes appréciations entre les leaders terroristes et évidemment ceux qui sont
les petites soldats, mains, on dirait.
Les exécutants. Voilà, exécutants. Mais je crois que c'est très important de prendre en compte ce besoin de comprendre le sentiment d'absence de justice sociale ou ce désir d'inclusion. Troisième élément, pardon.
Pour conclure, Emmanuel, il nous reste moins d'une minute.
Pour conclure, c'était très important de bien rappeler les chiffres et la réalité. La France ne contribue pas à hauteur de 50% au G5 Sahel pour une raison simple. Elle n'y contribue qu'à hauteur de 35 millions d'euros, ce qui est à peu près 10% de la somme. Mais elle contribue à la sécurisation, puisqu'elle dépense 800 millions d'euros par an pour le fonctionnement de Barkhane, et en y ajoutant Serval depuis 2013. Donc la France contribue évidemment énormément à la sécurisation, mais pas à travers le G5. Il y a d'autres acteurs, les États-Unis qui ont décidé de doubler leur mobilisation financière, ainsi que l'Union européenne qui passe de 50 à 100 millions d'euros, et des partenaires peut-être un petit peu exotiques, avec beaucoup de guillemets, l'Arabie saoudite qui a promis 100 millions de dollars, ou les Émirats arabes unis 30 millions. Même le président Paul Kagame a dit que le Rwanda contribuerait aussi à la stabilisation de la zone. Mais je crois que, pour résumer, ce qui est très important d'avoir à l'esprit, c'est que on ne sort pas d'un conflit sans trouver une issue à ce conflit.
C'est
et donc,
clair.
Ce qui se fait à DIFA doit évidemment être modélisé pour que, dans le septentrion malien, nous trouvions les moyens d'avoir des éléments d'appréciation et de langage pour pouvoir sortir de cette crise.
Merci beaucoup, Emmanuel. On terminera sur cette conclusion. Je rappelle, Emmanuel, que vous êtes le président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous, chers auditeurs, de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs. Demain, nous parlerons de la nutrition dans un monde globalisé. N'hésitez pas à vous inscrire. Prenez soin de vous, à l'écoute d'Africa.